Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de PPC Talk. Aujourd'hui, on vous parle d'attribution, un grand sujet qu'il ne faut vraiment pas louper si vous voulez maximiser l'impact de votre budget marketing. Et on se retrouve comme d'habitude avec Alexia. Salut Alexia.
Salut Maxence.
Donc l'attribution, on va peut-être rappeler brièvement ce que c'est parce qu'il y a encore beaucoup de mythologie autour de ça. Et pourtant, c'est beaucoup plus important que de savoir gérer Meta, Google ou autre. Selon moi aujourd'hui. Comment tu définirais, toi, l'attribution ?
Ça revient à la part de gâteau que tu vas vraiment séparer, combien de parts tu vas donner entre des différents canaux marketing et qui ne soit pas la vision plateforme. Donc c'est vraiment un outil pour moi aujourd'hui qui vient juste remettre l'église au centre du village, enfin la vérité en fait au milieu de typiquement méta, niveau attribution notamment.
Ouais. Moi j'avais une métaphore il y a bientôt 15 ans qui m'a suivi, à l'époque c'était avec Masberry, qui était un outil d'attribution, justement un des premiers qu'on a vu en France. C'est la métaphore de l'équipe de foot, de se dire ok, bah, en fait dans l'équipe il y a des joueurs qui vont avoir des impacts différents sur le résultat d'un but. Par exemple, un but c'est pas un joueur tout seul qui a été jusqu'au but, c'est y a quelqu'un qui a piquer le ballon à l'adversaire, il a fait une passe, il y en a un autre qui a fait la passe décisive, et le buteur qui a concrétisé le but, qui a concrétisé l'achat dans notre exemple. Et autant l'attribution, c'est un vieux sujet, parce que pour le coup, moi j'avais fait mon mémoire de fin d'études là-dessus à l'époque, et il n'y avait pas RGPD ni quoi que ce soit, donc c'était quand même plus simple pour le suivi, on va dire, des visiteurs. Le sujet, c'est à chaque fois, ok, bah, comment on comprend le parcours utilisateur, c'est juste une métaphore du parcours utilisateur qu'on va essayer de comprendre nous en tant que marketeur pour savoir typiquement où on va mettre notre budget et sur quelle campagne spécifiquement on va mettre notre budget, puisque tu citais les données plateformes. Donc les données plateformes, ça a quand même des grosses limites. Peut-être on peut rappeler aussi ce que c'est rapidement cette partie-là, parce que les données plateformes, ça sonne un peu mystique. Comment tu le définis, toi ?
Pour moi, les données plateformes, c'est ce que j'appelle le nombre de conversions sur Google, le nombre de conversions sur Meta, le nombre de conversions sur le système CRM, Klaviyo, Brevo ou une autre solution. Et en fait, si tu fais la somme de toutes ces conversions-là, tu es plus riche que ce que ton chiffre d'affaires au réel va te donner. Donc c'est vraiment ce que j'appelle le data et l'attribution plateforme.
Et c'est ce qui crée justement cette surattribution qui est difficile à comprendre pour certains, j'ai l'impression, de dire qu'en fait, si tu additionnes toutes tes données, comme tu dis, bah, tu te retrouves avec beaucoup plus de conversions que ce que tu as en réalité. Et si tu ne fais pas attention à ça, bon, évidemment, normalement, une vraie entreprise e-commerce, elle va avoir un pilotage où elle va prendre plutôt les chiffres de son CMS, de son Shopify, Magento, PrestaShop, etc., pour prendre les décisions. Mais tu peux te retrouver avec des effets un peu pervers où tu as l'impression que tout marche bien et il y a ce côté, tout le monde tire la couverture à lui, puisque bah, la même conversion qui va remonter dans une campagne shopping sur Google, mais la personne, en fait, elle était passée par une vidéo de retargeting aussi sur Meta, voire même c'était que du post-view, et puis au final, elle a acheté via un email d'abandon de panier, tu as effectivement trois fois la conversion. Et si tu as du budget à réallouer ou à l'inverse à couper, bah si tu regardes que les données plateformes, tu ne sais pas spécifiquement ce qui se passe.
C'est ça, et en plus, c'est encore plus pervers que ça parce que déjà, au sein des plateformes, elles n'ont même pas le même temporalité d'attribution. Si je prends du Google, on est sur du 30 jours en data-driven. Si je prends du Meta, on est en 7 jours clic, 1 jour impression. Par défaut. Klaviyo et Brevo, j'ai un peu moins en tête le système par standard d'attribution. Tu prends d'autres comptes qui ont un temps de conversion un peu plus long, ils sont pas à 30 jours sur Google, mais plutôt à 90, qui fait que moi, c'est un des cas typiques que j'ai en plus, c'est que entre le moment d'une ad et le moment où tu encaisses le CA, il peut se passer quand même pas mal de temps. Et tu vois, moi, typiquement, je fais mes points mensuels première semaine de mois, donc souvent des fois le 2, le 3. Mais si je prends les mêmes chiffres, donc là, par exemple, de mars, si je prends les chiffres aujourd'hui et je les reprends dans une semaine, j'aurai bien plus de CA attribués sur Google parce que ça va remonter encore en plus.
Ouais, t'as cette partie-là aussi avec le délai de remontée des conversions, la modélisation des conversions, puisqu'on citait RGPD rapidement. t'as pas toutes les données, donc il y a aujourd'hui une grosse part de modélisation quand même sur le consent mode. On en parlait dans un épisode précédent, mais en gros, on va quand même faire passer des informations à Google, Meta et autres pour qu'ils arrivent à modéliser la partie de trafic qu'ils n'ont officiellement pas le droit de voir. Et ça, ça vient créer aussi des biais sur cette brique d'attribution, parce qu'en fait, le délai de décision est beaucoup plus long. Enfin, toi, tu dois attendre, on va dire, plus longtemps si tu veux une donnée pure et parfaite.
C'est ça, et en plus tu vas encore ajouter de la complexité, c'est que selon le persona que tu as, ils sont plus ou moins aptes à accepter ou non les cookies. T'as aussi des personnes qui ont beaucoup plus des iPhone et iOS du coup, ou même des utilisateurs MacBook, enfin l'univers Apple, et qui fait que t'as même des secteurs où ils ont un taux d'acceptation des cookies qui va être en dessous de 60%. On n'est pas très loin des moyennes. Aussi, mais 60% ça reste quand même très faible versus toi quand t'as commencé, je pense, ou de toute façon c'était même pas un sujet. Et en fait, du coup, t'as le 40% restant de flou. Alors, heureusement, les plateformes elles ont quand même mis en place en se disant bon, bah on estime justement que tu as 60% de taux d'acceptation, donc moi je vais remodéliser en gardant toute l'anonymité possible sur tes data, hein, bien évidemment. Mais du coup, ça va venir te réattribuer ce 40% modelé. Sauf qu'en fait, c'est toujours de la modélisation. Donc ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si tu as peu de data et que tu as un fort taux de refus de cookies, bah forcément que Google, ce sont ces Google Analytics, mais c'est la même chose avec les autres outils type Piano, Weezly, Matomo, enfin voilà, il y en a plein des outils, qui va faire qu'au plus tu as un compte avec peu de sessions, du coup aussi peu d'achats, et au plus ça va être aussi compliqué de le modéliser. Et ça, c'est toute la complexité dans laquelle il faut savoir évoluer, il faut savoir l'accepter. Et on en revient aussi à un point où maintenant, même un Google Analytics ne te donne plus 100% de ton CA au mensuel.
Ouais, forcément. Le point intéressant et qui vient, on va dire, doublement complexifier ça, c'est que t'as cette partie d'acceptation des cookies qui va déjà nous priver d'une partie de la lecture, mais aussi le point intéressant, c'est ce que Google a conceptualisé, ou en tout cas a pompé, parce que ça existait déjà, mais c'est le concept du messy middle, le milieu en bazar, en traduction un peu random de ma part. C'est de dire que les parcours d'achat se sont complexifiés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de recherche, il y a beaucoup plus de travail en amont des achats, surtout sur des paniers complexes qui étaient déjà les plus complexes côté e-commerce, mais par exemple dans le mobilier, sur des paniers moyens élevés, on sait qu'il y avait du délai avant conversion qui pouvait aller de 4 à même 10 semaines. Typiquement, tu vas te retrouver aussi avec ces éléments-là sur même aujourd'hui des baskets, et tu vas avoir des personnes qui vont en plus reboucler le parcours pour repartir en phase de découverte, là où normalement, toi, tu avais déjà payé sur de l'awareness, la considération, des logiques un peu plus branding au début. Bah en fait, les personnes, au lieu de descendre typiquement dans un tunnel classique, ils vont d'un coup remonter et re-challenger tout le parcours d'achat. Et ça, d'un point de vue décision budgétaire, c'est quand même beaucoup plus complexe à gérer, parce qu'il faut prendre en compte ces éléments-là et la non-linéarité du parcours client aujourd'hui, qui fait que si tu ne prends pas en compte ces logiques d'attribution, et on y reviendra juste après, bah, ton pilotage budgétaire, il est quand même très aléatoire.
C'est d'ailleurs l'une de mes hypothèses. Je pense qu'à terme, on parlera plus de funnel, donc vraiment d'entonnoir entre tofu, mofu, bofu, donc top funnel, milieu de funnel et bas de funnel. Je pense que ça va être complètement re-challengé et re-questionné, parce qu'en fait, moi, je le vois juste dans un parcours que j'ai eu rien que ce week-end. Je cherchais un sac, j'ai vu la première ad sur Pinterest. Bon, je commençais à regarder, donc j'étais retargetée à fond sur Meta, bien évidemment. Je me suis inscrite à la newsletter, je me dis, on va tenter s'il y a un bienvenu avec un petit code 10, ça fait toujours plaisir. Et en fait, c'est là où je vais en venir, c'est que même au-delà de tofu, mofu, bofu, il y a l'importance de la marque qui est beaucoup plus considérable. Et moi, l'une de mes stratégies avant, c'était de très très fortement caper la marque. Bah là, je suis en train de revenir un peu dessus, parce qu'en fait, là, je vois dans mon parcours, je ne savais pas quel sac j'allais acheter. J'ai eu du coup l'ads sur Pinterest, j'en ai pas eu qu'une. J'ai vu l'ads sur Meta, j'ai visité le site, je me suis inscrit à la newsletter. Bah, en réalité, j'ai converti en SEO en tapant la marque. Et du coup, j'aurais pu... J'ai pas cliqué sur une ad, parce que je sais, les coups par clic, je l'évitais. Mais du coup, tu vois, en termes d'attribution, comment tu réattribues ça ? C'est quand même assez compliqué, c'est pas si simple. Et donc, c'est aussi là où, ce que je disais, hein, c'est qu'au lieu aussi de tofu, mofu, bofu, bah, t'as aussi l'importance de la marque, l'importance du direct qui va arriver. Et ça, je pense qu'on le sous-estime encore fortement en 2026.
Ouais, et je pense que c'est un débat que j'ai eu plein de fois avec des personnes du SEA, même dans mon ancienne équipe, de dire, bah, ok, quand en plus t'es pas squatté, il y en a qui ont le... Il y a des débats là-dessus, et limite on pourra en reparler spécifiquement, mais sur la brique attribution, je trouve que c'est intéressant de s'y arrêter, t'as raison. Le fait que ta marque ne coûte pas cher parce que t'as un gentleman agreement avec tous tes concurrents qui fait que personne ne s'achète entre eux, ok. Tu as... un canal qui convertit fortement pour quelques centimes vers Google, tu n'as aucune info, ou en tout cas il y a peu de tests qui ont été menés sur la vraie conversion entre le SEA marque et le SEO marque, puisque l'avantage du SEA marque, c'est que si en plus tu es tout seul, tu gères plus facilement tes site links, tu gères ce que tu vas y afficher, c'est un vrai emplacement publicitaire par nature. En fait, si tu te prives de ça, tu remets dans les mains du SEO la charge de faire de marquer le but, hein, si on reprend la métaphore de tout à l'heure, là où en plus tu as un risque sur shopping où, bah, comme Google arrive à faire les bonnes allocations, on va dire, tu vas te retrouver avec des concurrents sur ton shopping marque, donc sur ta propre marque, tu vas avoir tes concurrents qui vont afficher leurs produits, et avec le risque qu'on a évoqué que les personnes repartent en phase de découverte puisqu'ils vont relancer l'acte d'achat par ailleurs. Et donc déjà la marque en search, donc en texte on va dire, il peut y avoir un débat, même si moi j'y suis très favorable, s'il y a peu de squatting. S'il y a du squatting, il y a des outils qui permettent de s'afficher que quand il y a de la concurrence, etc. C'est un peu de la connerie en général, mais disons que c'est plus facile que de le gérer dynamiquement avec des rapports automatiques d'Auction Insight, admettons. Mais sur la brique shopping, qui est la porte ouverte au retour en phase de découvrabilité, ça, pour moi, c'est limite non négociable. Et on parlait d'arbitrage budgétaire. Ça, c'est un budget qui, effectivement, va souvent être sur du last touch. On va revenir sur les modèles. Le dernier clic, le but avant l'achat, il ne faut pas passer à côté parce que c'est comme un match. Si le buteur se foire, bah, la balle est perdue, retour à zéro.
Tu vois, là, moi, justement, j'ai fait des analyses sur le trimestre là qui vient de se clôturer. En fait, en search, j'ai des retours sur investissement, franchement, sur la marque qui sont à plus de 50, je crois, à te monter à même plus de 200 en termes de retours sur investissement. Donc, la marque sur le search, j'ai pas de souci, je suis même prête à l'alléger parce qu'en fait, s'il y a le SEO derrière qui est placé, ok. Par contre, si quand je tape la marque ou marque plus produit, pour moi, s'il y a des résultats shopping, à aucun moment je décide de relâcher la pression sur du shopping. Au contraire, je l'accélère. Parce que déjà, rien que tu le vois, si tu as une shopping marque, je pense que tu es sur un retour sur investissement. Je crois le plus bas sur du secteur vraiment ultra concurrentiel, moi, c'était du 3-4. Et franchement, on en était content. Parce qu'en fait, sur le shopping, il ne faut pas oublier que tu retrouves Amazon, AliExpress, Shein, Temu. Contre qui aussi t'as quand même aussi bien envie de lutter. Donc pour moi, s'il y a du shopping, il y a trop d'encarts publicitaires à choper pour qu'on les prenne tous, encore plus si t'as pas beaucoup de produits. Donc pour moi, c'est juste un non négociable, parce que oui, il faut se remettre dans l'attribution, c'est le moment où tu peux repartir plus haut dans ton funnel, parce que ah bah tiens, il y a un concurrent qui a lancé une promo, l'image a l'air d'être un peu plus sympathique sur le flux produit. Enfin ça, le flux produit, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, il faut l'optimiser. Donc oui, pour moi, l'attribution aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment s'y atteler. Et quelque chose qu'on faisait avant, c'était les analyses si tu étais en premier clic. Donc le premier canal à avoir la session, le dernier clic, quel est le dernier canal à avoir converti, le linéaire qui divise par ton nombre de canaux, et le data-driven qui... essaye de pondérer à juste titre. Et ben, fais des analyses entre le first click, le last click, le linéaire et le modèle standard data driven. Tu as quand même aussi des écarts de performance qui sont assez conséquents. Et c'est là où tu vois typiquement que Moi, aujourd'hui, j'écoute même j'écoute la plateforme Meta. Mon budget, je peux faire x10 dessus et j'ai toujours des retours sur investissement de dingue. Ben, j'ouvre un Shopify et franchement, ben, j'ai beaucoup, beaucoup moins de CA finalement qui est attribué. Et donc après, c'est à qui tu vas donner raison et c'est comment tu arbitres. Et ça, c'est sur des tests un peu d'incrémentalité en fait. On va se dire, bon bah, si demain je fais x2 sur mon budget, combien en fait j'ai fait de ventes? Ça, pour le coup, c'est un vrai test aussi à mener. Combien j'en ai pas fait non plus? Ok, bon bah, mon canal, il est optimisé à juste titre. Je sais que je commence à toucher des limites. Donc bah, je vais plutôt aller sur un autre canal. Moi, c'est vraiment la logique more, better, new. Tu sais où est-ce que tu vas? Et justement, souvent, c'est avec des questions de budget aussi.
Ouais, et puis tu as le intra-plateforme, tu as effectivement ce moment où tu vas décrocher parce que tu satures une audience, un pool de mots-clés, un pool de catalogue. Et donc l'euro que tu vas rajouter dans ton budget va casser un minimum la rentabilité. Là se pose la question de ok, bah, quel est mon ROAS plateforme idéal au sein de mon mix global? Et donc tu vas dire ok, bah, en fait, je suis prêt à dégrader ce que je vois dans Google, je suis prêt à dégrader ce que je vois dans Meta, dans Pinterest, etc. Parce que au global, ça va et je vois que tant que je gagne, je joue, je remets une pièce dans la machine parce que même la petite perche, je suis prêt à l'accepter. Jusqu'au moment où effectivement, tu as ce point de bascule du ROS plateforme, en l'occurrence. Et après, tu as cette vision macro de l'attribution sur OK, bah en fait, ça, t'en as qui essayent de le faire à la semaine, d'avoir des débats comme ça sur OK, bah, cette semaine, on remet du budget sur Meta, telle campagne, sur Google, telle campagne, etc. OK, admettons. Moi, j'ai plutôt tendance à raisonner au moins en mensuel sur ces briques-là parce que sinon, tu ne crées pas un mix qui est homogène sur une période d'analyse suffisante et donc tu fais que des sauts de puce et donc tu as un comportement un peu erratique qui ne crée pas un mix marketing stable et optimisable.
Mon côté aussi pour m'aider aussi un peu dans la prise de décision, parce qu'en fait par moment si tu as besoin d'accélérer, c'est je regarde le MER, donc le Marketing Efficiency Ratio, qui en gros je prends juste tous mes coûts marketing avec mon CA global, comme ça je sais aussi la pression qu'a les ads, le CRM et les autres, et même entre Google, Meta, Pinterest, TikTok. Et en fait, comme ça, je regardais à 7 jours comment je me situe à N-1. Et après, moi, j'utilise vachement la vision MTD pour aussi savoir où on est. Et comme ça, tu sais que tu as des semaines, bah, tu prends de l'avance. Des semaines, tu as un peu de retard, mais elles sont comblées. Des phases d'accélération, des phases où tu ralentis un peu. Je trouve que du coup, avoir cette vision macro et regarder un MER, ça va venir aussi t'aider. Parce que si petit à petit, au plus tu fais ça, après, l'enjeu aussi que ça va être, c'est de se dire... Je sais pas, on va dire que Global Business, tu as un retour sur investissement, tu as besoin d'un retour sur investissement de 8. Bah en fait, tu vas te rendre compte que sur ce 8, c'est peut-être 4 sur Google, c'est peut-être 6 sur Meta, et que par contre, tu vas bombarder en termes de flow et ta stratégie SEO, elle va être bétonnée au maximum pour que justement ce 4 et ce 6 vision acquisition payante, elles soient absorbées dans le global. Et pour autant, ça ne veut absolument pas dire que ton système payant est faible ou est pas assez puissant. C'est parce que justement, il y a l'ensemble des parcours aujourd'hui qui se font. Tu passes d'une plateforme à l'autre, tu temporalises aussi ta décision d'achat. Et donc, il faut vraiment voir maintenant le marketing dans un ensemble. Et c'est aussi pour ça que cette notion d'attribution, elle va être encore plus importante.
Ouais, et tu as ce côté aussi où tu décides où tu vas mettre tes rallonges, mais ça n'empêche pas effectivement que chaque plateforme soit hyper bien gérée entre elles, forcément. Et tu as un débat aussi souvent qui est de dire, bah oui, mais en fait, Facebook est en souffrance. Ok, on a des problèmes de perf sur Meta, admettons. Par contre, tout le reste marche et le MER ou le COS, je raisonne plus au COS, donc la part des coûts marketing dans le chiffre d'affaires total. Le MER, c'est juste l'inverse, mais c'est beaucoup plus à la mode, forcément. Si ton COS global ou ton MER est bon, l'idée, ça peut être de dire bah, « Ah non, Meta, ça va pas fort, on va sous-investir. » Ok, ça peut être une théorie. Ou à l'inverse, c'est de dire bah, « En fait, ok, je suis prêt à dégrader ma performance sur Meta pour aller chercher plus de volume qui est soutenu par mon écosystème global. » Ce que j'aime bien parce que du coup, tu perds moins de temps parce que tu vas aller peut-être à marge dégradée, mais tu vas chercher du nouveau client, tu vas chercher à consolider de l'apprentissage sur tes campagnes, tu vas peut-être faire plus de tests créa, etc. Il n'y a pas que le ROAS dans la vie, on pourrait dire. Et ce qui est intéressant, je trouve, là-dedans, c'est que le temps et le délai sont des éléments qui sont appréciés sur un horizon donné. C'est-à-dire que si ton cost global est bon, pour moi, le seul risque que tu prends, c'est soit de surinvestir si effectivement il y a des problèmes de paramétrage, mais dans ce cas-là, c'est une bonne gestion pure et dure. Et sinon, juste, tu vas faire plus de rentabilité. Mais pourquoi? Parce que bah, tes projections financières, elles étaient données. Donc soit oui, tu vas faire plus de résultats, admettons, tu vas payer ton impôt sur les sociétés et voilà. Ou tu réinvestis, comme je disais, et tu crées du capital futur, que ce soit sur des créa winners, sur des nouveaux clients que tu vas ressolliciter en CRM, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus smart de faire cette partie-là. Et c'est exactement ce que je faisais chez Tikamoon. Et c'est un des éléments que j'avais du mal à faire comprendre quand tu avais d'autres directeurs marketing qui demandaient « Mais pourquoi, comment vous faites pour faire x2 tout le temps, etc. ?» Mais en fait, on remettait des jetons à chaque fois.
Ouais, je pense que ça, c'est mes comptes préférés aussi à piloter au quotidien. C'est que si j'ai un COS ou un MER cible et en fait, je suis bien, bah pour moi, en fait, si je termine un ROAS de 10 alors que je devais faire un ROAS de 6, pour moi, il n'y a pas de victoire parce qu'en fait, c'est juste du CA que tu n'as pas pris. Et en fait, il faut aussi penser dans quel contexte tu vas te situer l'année prochaine. Tu ne seras pas forcément dans les mêmes conditions. Phénomène de marché, contexte économique, faisons que, etc. Sauf que l'année prochaine, quand les actionnaires et les DAF vont voir que tu as fait un ROAS de 10 alors que tu devais faire un ROAS de 6, et ils vont dire, bah vas-y, refais 10 cette année. Qui me rappelle aussi des stratégies dans la finance chez certaines personnes qu'on avait pu rencontrer. Et en fait, bah, autant rester à l'objectif. Par contre, en termes de CA, c'est peut-être faire x2, x3, et vraiment d'aller chercher ce chiffre-là d'affaires. Alors c'est sûr, tu serais quand même challengé l'année prochaine, mais tu es dans des conditions qui sont même beaucoup plus favorables parce que aussi, tu as débloqué une enveloppe publicitaire beaucoup plus conséquente.
Oui, tu t'es acheté du test et de la marge de manœuvre. Il y a aussi cet effet-là, effectivement, sur pas mal de comptes sur les budgets annuels, c'est que si tu ne l'as pas utilisé, tu ne l'as pas l'année prochaine. Sauf que ça crée aussi des effets pervers qui est de dire, bah, ok, on va cramer le budget juste parce qu'on a le budget et sinon on ne l'aura plus. Et là, tu déresponsabilises un peu. Alors, je ne citerai pas de nom, mais tu as ce côté, non mais il faut qu'on dépense ce budget-là, quoi qu'il en coûte, comme disait l'autre. Donc, c'est un juste équilibre à trouver, je pense. Il faut toujours raisonner en bon père de famille pour regarder les anciennes expressions. Et par contre, le point qui est intéressant aussi, c'est de dire, ok, bah, en fait, si tout est ROAS sont ok dans les plateformes, mais qu'à l'inverse, ton MER ou ton COS au niveau global business, ça va pas. Là, c'est d'autres types de débats à avoir et d'autres types de décisions à mener, et c'est souvent les éléments où les discussions sont les plus compliquées, je trouve.
Ouais, en sachant que justement, tu reviens souvent sur un système du coût d'attribution, parce que souvent, c'est sur des grosses enveloppes publicitaires où tu vas retrouver justement ce budget de conversion, ce budget de milieu de funnel, ce budget de notoriété, de awareness. Du coup, moi, l'une de mes techniques, parce que en fait, avoir m'expliquer comment en faisant de la considération, tu fais du retour sur investissement, tu peux pas piloter ça directement, ça va arriver plus tard, etc. Comment un vue sur YouTube te ramène de l'argent, c'est pas via YouTube. Ce sera après dans une PMAX ou sur Pinterest, hein, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Mais du coup, comment tu poses un indicateur pour ta campagne YouTube qui soit suffisamment aussi bon et pertinent pour que tu dises « Ok, je continue de financer YouTube ou je l'arrête ?» Et je pense que c'est aussi là où on commence à avoir des réflexions. Mais je pense que toi, c'est quelque chose que tu fais quasiment depuis quasiment 15 ans. C'est que tu as des indicateurs aussi milieu de funnel et haut de funnel qui vont venir t'aider à te dire « Bon, bah, je garde ces campagnes, je les coupe, je ralentis. » Et pour moi, le ROAS, quand on vient raisonner dans un ensemble, c'est clairement pas suffisant.
Ouais, c'est l'intérêt aussi. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ont pris des retards considérables sur tout ce qui est branding, justement, parce que le branding n'est pas là pour convertir directement. Je sais que tous les directeurs marques qui peuvent écouter vont dire « Bah si, le branding, c'est fait pour convertir. » Oui, et comme on disait, le parcours d'achat s'étant complexifié, ça ne va pas convertir directement parce que, comme tu dis, tu as fait une vidéo sur YouTube Ads et tu l'as diffusée, bah, ce n'est pas pour autant que ça va générer de la conversion directe. Par contre, et c'est un élément effectivement que j'apprécie, c'est tout ce qui va être autour des micro-conversions, de dire « Ok, bah, en fait, qu'est-ce qui me permet de dire que cet investissement sur de l'awareness, sur de la considération, n'est pas juste une campagne de trafic sur Meta, ce qu'il ne faut jamais faire évidemment. Comment je vais juger la performance du branding, typiquement, mais d'un point de vue paid ads, parce que effectivement la performance du branding, c'est d'autres éléments et c'est d'autres métiers même par rapport à ce que je suis capable de maîtriser. Par contre, dès lors qu'on met du budget marketing sur la table et qu'il faut déployer ce budget-là sur YouTube ou par ailleurs, hein, y a du Pinterest, on peut faire de l'awareness, etc., etc. Comment on va jauger cette partie-là? Est-ce que c'est en fonction de la qualité du trafic? Donc on peut avoir des indicateurs comme par exemple le nombre de pages qui ont été vues dans la session, la durée de la session, le nombre de fiches produits vues, est-ce que quelqu'un a vu ou non une fiche produit? Parce que généralement les campagnes de awareness, ça va arriver soit sur de la collection, soit sur de la homepage ou une page d'opération dédiée. Donc il y a plein de micro-indicateurs comme ça. Et si je reprends la métaphore de tout à l'heure, évidemment, un défenseur, tu ne vas pas le juger sur son nombre de buts que lui a marqué, tu vas le juger sur ce que lui a défendu. Donc, tu adaptes aussi tes indicateurs et tes KPI en fonction de l'objectif de la campagne, qui est un des prérequis de base, on va dire, dans les métiers du PPC, c'est que une campagne a un objectif et tu l'évalues, tu l'arbitres en fonction de cet objectif-là. Et donc, tu ne vas pas piloter une campagne de branding en fonction d'un volume de conversion, d'un ROAS ou quoi que ce soit. Par contre, il y a un budget marketing qui est mis. Il faut avoir des indicateurs qui sont aujourd'hui quand même beaucoup plus sympas et sexy que ce qu'on pouvait avoir à l'époque avec le GRP, le Gross Rating Point, qui était de dire, OK, bah, sur ma cible, combien de fois ma pub a été vue sur une période donnée? Quand on fait de l'affichage 4x3, on fait pas mal ça. Bah, en digital, il y a d'autres éléments à prendre en compte à ce niveau-là. Et pareil, on revient sur les modèles d'attribution, ne pas sous-estimer, à mon sens, ce premier clic, le clic sans lequel tout le reste de la chaîne n'aurait pas eu lieu, qui est que si ta marque n'a pas rencontré son utilisateur la première fois que tu l'as vu, enfin qu'il t'a vu, tout le reste, les ajouts paniers, les campagnes de recherche brand, etc., tout ça ne peut pas avoir eu lieu. C'est l'effet retour vers le futur quand... Marty se sauve lui-même au lieu d'être sauvé par son père, etc. Et en fait, il annule sa propre création et du coup, il doit passer tout le film à remettre son père et sa mère ensemble parce que, bah, en fait, il a cassé le modèle initial où ils se sont rencontrés. Ça part loin, mais c'est une métaphore acceptable, je pense.
Ouais, pour moi, de toute façon, l'attribution est forcément de pair avec la data et les KPI, hein, mais ça, de toute façon, c'est le socle de n'importe quel système assez sain. Si tu n'as pas la data, tu ne peux rien faire.
C'est une base de données, on va dire, enfin une base d'analyse de données qui est importante à avoir. Et la difficulté, je pense, aujourd'hui, c'est que comme on veut tout de suite... on ne prend pas le temps d'analyser ne serait-ce que sur l'intégralité d'une durée de vie de parcours client. Exemple, tu vends des cuisines et les devis sont à faire sur internet. Bah, une cuisine, tu ne vas pas l'acheter comme tu vas acheter une montre ou un t-shirt blanc ou des articles, on va dire, différents. Chacun va avoir son propre élément. Et le t-shirt blanc, tu vas peut-être l'acheter day one, tu vas l'acheter dans la foulée parce qu'il est à 10 balles et tout va bien. La montre, tu vas peut-être passer 2 semaines à regarder, bah tiens, est-ce qu'elle me plaît, etc. Et la cuisine, tu peux passer 3 mois à l'avoir. Tu dépasses même les fenêtres d'attribution classiques. Du coup, tu es encore plus soumis à ces micro-conversions dont on parlait parce que tu as besoin de connaître les points de contact, on va dire, et de se dire, OK, bah en fait, comment je fais vivre le client sur la durée? Mais tu peux pas faire des changements de mix marketing drastiques du jour au lendemain sans attendre au moins une fenêtre complète de conversion. Si ton délai moyen avant conversion, et ça, tout le monde peut le voir dans Analytics ou même dans Google Ads, tu peux pas prendre des décisions de changer toutes tes campagnes et l'apprécier sur une période qui est inférieure à ce délai-là, plus normalement la période de ramp-up, donc la période où les campagnes vont réapprendre, et la période de cool-down, qui est cette fameuse période dont on parlait tout à l'heure, où, OK, bah, on pose les stylos, mais il faut le temps que la modélisation se fasse, et généralement, il y en a pareil pour 1 semaine à 2 semaines, selon pareil les délais avant conversion. Donc, sur un délai avant conversion de 4 semaines, qui était ma moyenne, bah, tu dis, OK, bah, en fait, j'ai besoin de 2 semaines de ramp-up, mes 4 semaines d'analyse et 2 semaines de cooldown, et donc tout de suite tu as laissé passer 8 semaines, tu te prends 2 mois, mais sur des enjeux aussi importants qu'un mix marketing, quand on touche à l'attribution, on touche au mix, bah, c'est finalement pas tant que ça. Et c'est effectivement pas du tout les mêmes temporalités que du pilotage hebdo, où tu vas changer tes ROS, changer tes budgets, de manière, on va dire, un peu plus microscopique, tout aussi importante évidemment, mais tu vas pas faire des grandes envolées lyriques sur des périodes aussi courtes, à mon sens.
Ouais, et en plus, je pense que c'est ça le plus important pour moi, ça va être aussi de remapper correctement le parcours de chaque utilisateur. Pour s'assurer aussi de toute la cohérence entre les informations, même tes remontées de data. Tu vois, moi, je prends mes 3 derniers achats. J'ai pourtant utilisé le strict même mail. Une semaine après, j'étais encore retargetée sur un produit que j'avais acheté. Et donc, en plus, je pense que vraiment, il faut revoir la data et l'attribution avec le parcours des utilisateurs dans un ensemble. Ce n'est pas des projets qui sont en 24-48 heures. Il faut vraiment bien réanalyser point par point. Je pense qu'on a quand même de la chance d'avoir accès à la donnée beaucoup plus rapidement via les API, les Looker Studio et autres quand on les a déjà de base. Donc il ne faut vraiment pas minimiser la richesse de data qu'on peut avoir justement et qu'il va falloir venir challenger dans les parcours utilisateurs.
Ouais, clairement. Et la notion de parcours utilisateur, effectivement, si on devait résumer en fait l'attribution, on mystifie ça pas mal autour de tout ce qui est investissement publicitaire sur Meta, sur Google, sur Pinterest, le CRM, le SEO, etc. Ce qu'il faut se rappeler, finalement, c'est exactement ce qu'on disait en intro, c'est que c'est un miroir du parcours utilisateur. Et donc, comme le parcours utilisateur s'est complexifié, l'attribution s'est complexifiée et est devenue d'autant plus important. Mais on peut faire toutes les analyses qu'on veut. Il faut se rappeler que derrière, c'est des humains qui vont avoir un comportement d'achat. Et donc, ça joue sur notre offre, ça joue sur notre site, ça joue sur nos parcours. Et on n'analyse pas un parcours en deux coups de cuillère à peau sur un coin de table. Donc pour le coup, s'il y avait une invitation à faire, c'est vraiment de prendre le temps d'analyser les parcours clients off-site via l'attribution. On-site, ce sera d'autres sujets, mais ça en fait partie également, parce qu'en fonction de ça, il y aura des niveaux d'informations différents qu'on peut mettre à profit et à disposition, en tout cas des utilisateurs. Donc menez vos projets d'attribution, ça en tout cas c'est sûr. Aujourd'hui, une marque qui veut être sérieuse et qui investit sur plusieurs leviers doit se poser les questions de l'attribution. Généralement, à partir de 3 millions d'euros de CA, on peut commencer à se poser ces questions-là. Avant, c'est effectivement un peu tôt, parce que l'idée, c'est quand même d'être un peu plus laser sur ces investissements et donc de ne pas multiplier les plateformes. On fait, on va dire, au mieux le temps d'atteindre ces niveaux de chiffre d'affaires. Mais à partir de là, il faut clairement avoir une vue sur ces modèles d'attrib, ce qu'on retrouve sur la plupart des grands comptes, mais mener au moins, on va dire, une minimally viable attribution. Et ça, c'est le genre d'éléments qui vous éclaire et qui vous ouvre les chakras sur l'acquisition, mais aussi sur l'offre, sur le CRM, bref, sur plein d'autres éléments. Donc, on espère que l'attribution, c'est un peu plus clair pour vous à l'issue de cet épisode. Merci beaucoup, Alexis, en tout cas, pour cet épisode.
Avec plaisir.
Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de PPC Talk. À bientôt.